l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Et dans laquelle on va prendre l'air encore. On va même prendre un peu l'eau. Ce sera humide puisqu'on sera le long de notre fleuve, armature du territoire l'Aulne. L'Aulne et ses affluents se déversent sur un bassin versant. Un vaste territoire donc qui couvre une bonne partie du centre Finistère et sur lequel veille l'EPAGA, l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne et de l'Yerre. On retrouve l'EPAGA dans l'émission une fois par trimestre. L'EPAGA y veille au niveau des eaux, quand c'est trop sec, quand ça déborde. L'EPAGA surveille la qualité des eaux. Il encourage les pratiques agricoles utiles à cette qualité, comme le bocage. Plus généralement, l'EPAGA veille sur les milieux sauvages du bassin versant. Ça passe par une zone Natura 2000, celle de la vallée de l'Aulne. Et c'est Sylvestre Boichard qui en est chargé pour l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne et de l'Yerre. Bonjour Sylvestre.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est une zone Natura 2000 ?
Oui, alors tout à fait. Alors une zone Natura 2000, ça vient en fait d'une directive européenne qui date de 1992. Hein, c'est pas tout récent.
Ah oui, c'est pas 2000, moi je croyais.
Non. Mais
d'accord.
Voilà. Et en fait, ça a 30 ans Natura 2000 et ça a été mis en place pour préserver les espèces de faune et de flore les plus rares en Europe. Voilà. Et donc en 30 ans, il y a plein de sites Natura 2000 qui ont vu le jour partout en Europe. On en dénombre plus de 27 000 aujourd'hui.
Ah oui, ah oui.
Ouais. Donc les différents États européens ont bien travaillé hein, sur cette thématique. Et en fait, chaque État met ses propres règles en place pour préserver ces sites Natura 2000.
Ah oui, il n'y a pas un protocole à respecter
Non, il y a une obligation un peu de résultat, en fait. Il faut que chaque État arrive à préserver ses espèces rares. Mais après, chaque État est libre de faire comme il le souhaite pour y arriver.
Mais c'est quoi la différence avec, par exemple, les réserves naturelles ou qui existait déjà avant les Natura 2000, je crois.
Ouais. Voilà, la différence, en fait, c'est que la Natura 2000, c'est européen. Ouais. Et donc, il y a une liste d'espèces rares qui a été écrite dans la directive européenne. Et donc, les sites Natura 2000, c'est les habitats de ces espèces rares. En fait, pour préserver ces espèces, il faut d'abord préserver l'endroit où elles vivent. Et donc, voilà, c'est ça, les sites Natura.
Il y a combien d'espèces rares, à peu près, qui sont définies à l'avance?
J'ai pas révisé ça.
Non, mais c'est des milliers, quoi.
Oui, c'est des milliers, ouais, oui. Je pourrais pas te dire le chiffre.
C'est étonnant que ça soit une liste exhaustive, parce qu'on pourrait très bien tout à coup découvrir une nouvelle espèce et puis se dire, bah tiens, si elle est là, il faut la protéger, non? C'est presque restrictif, finalement.
Oui, c'est un problème de la réglementation européenne, peut-être, d'être un peu trop restrictif des fois. Mais en tout cas, ça existe. Et puis, ça fonctionne un petit peu, hein, quand même. Il y a l'Union européenne régulièrement fait des bilans de ce qui a été fait, puis de l'état des espèces, et ça a permis quand même de préserver et de sauver certaines espèces qui allaient disparaître. Voilà.
Et qui décide de mettre en place une zone Natura 2000? Donc c'est l'État, enfin en France, par exemple.
Alors en France, voilà, c'est d'abord l'État. Alors c'est pas l'État tout seul, hein. C'est l'État sur avis de scientifiques, hein, qui ont travaillé sur ces différentes espèces. Et la première chose que fait l'État en France quand il veut créer un site Natura 2000, c'est qu'il y a le préfet, en fait, c'est le préfet qui est un peu maître d'orchestre là-dedans. Il crée un comité de pilotage. Un comité de pilotage, c'est une espèce de mini-parlement, en fait, où vont se rejoindre à la fois les élus locaux, mais aussi les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs,
les associations
de protection de la nature. Voilà, tout ce petit monde-là va se réunir autour de l'État et ils vont se mettre d'accord en fait sur quoi faire pour préserver les espèces rares présentes dans la zone.
Et ils définissent la zone.
Ouais. C'est leur premier travail, hein, d'ailleurs, sur la vallée de l'Aulne. Ça a été fait en 2010. Hein. Ça a pris 5 ans, hein, pour se mettre d'accord sur quelle zone allait être préservée. Mais voilà, ça a été acté dans un arrêté préfectoral et aujourd'hui, c'est remonté aussi à l'Europe. Aujourd'hui, la zone Natura 2000 est
précisément définie, on va dire.
Tout à fait.
Alors, c'est la seule zone que gère l'EPAGA, c'est ça?
Oui.
Mais quand on dit une zone, en fait, c'est une sorte, c'est des confettis. Hein. C'est vraiment, quand on la regarde sur une carte, c'est plein de parcelles, en fait, au bord de la rivière, en gros, quoi. C'est ça?
Bah, le site qui est géré par les Pagas, là, il est assez continu, quand même.
Ah bon, d'accord.
Voilà, il part de Châteaulin. Mmh. C'est vraiment toute la vallée de l'Aulne à partir de Châteaulin. Et ça remonte jusqu'à Scrignac, en fait, hein, sur le Haut-Aulne, pas loin de la frontière avec les Côtes d'Armor. Donc là, ça englobe toute la vallée d'un seul tenant.
Et une bande de combien autour de la rivière?
Eh bien, ça, après, ça a été négocié, en fait, presque au cas par cas, en fait, parcelle par parcelle. Donc, en fonction des besoins des animaux qui y vivent, on a sélectionné certaines parcelles ou pas. Voilà, par exemple, là où il y a beaucoup de colonies de chauves-souris, hein, parce que bon, je vais...
Oui, on va parler des espèces, bien
voilà,
sûr. Ouais.
Mais on a pris assez large, hein, de chaque côté de l'Aulne, donc à la fois la rivière, les parcelles au bord, dans ce qu'on appelle le lit majeur, mais aussi les flancs de vallée forestiers de chaque côté. On est même remonté sur des affluents de chaque côté. Donc voilà, il y a des zones où c'est assez large, il y a des zones où c'est beaucoup plus restreint, où par exemple sur le Haut-Aulne, là c'était juste pour les zones de reproduction du saumon, là ça englobe que le lit de la rivière et les berges, quoi.
D'accord. Quelles sont, alors justement, allons-y sur les espèces qui sont préservées dans cette zone Natura 2000, vallée de l'Aulne.
Alors les espèces qui sont préservées, il y en a quatre grands types. Il y a les chauves-souris, là, dont j'ai déjà un petit peu parlé, et en particulier une espèce qui s'appelle le grand rhinolophe.
Ah, la fameuse, qui n'est pas si grande que ça d'ailleurs.
Oh, ouais, une chauve-souris française, c'est la deuxième plus grosse chauve-souris de France, elle fait une trentaine de centimètres d'envergure, et elle a la particularité en fait, de faire des grosses colonies, de se regrouper en hiver et en été en colonies de plusieurs centaines d'individus.
Et alors en hiver, c'est où? C'est quoi? Dans des grottes?
Voilà, donc en hiver, c'est plutôt dans des zones noires où il fait relativement chaud. Donc elle va chercher des grottes et en particulier chez nous, des cavités d'ardoisières.
Ah oui, puis on en a quelques-unes.
Voilà, il y en a quelques-unes un peu qui ont été percées un peu partout dans la vallée de l'Aulne en particulier. Et là, elles vont s'installer, et puis elles vont hiberner en fait, hein, elles vont s'endormir et passer l'hiver là, en attendant que les insectes et la belle saison reviennent, quoi.
Et après, elles vivent dans la forêt, enfin, c'est dans les arbres, quoi, c'est ça?
Et non, le grand rhinolophe, en fait, il est très ce qu'on appelle anthropophile, il vit toujours assez près des humains en Bretagne, et donc l'été, il fait ses colonies sous les toitures. Dans les toitures, plutôt de grands bâtiments,
oui, quand même, ouais.
Ouais, parce qu'il lui faut un peu de place. Mais on en a dans des églises, au château de Trévarès, par exemple. Il y en a aussi à Châteaulin, on a découvert dans un hangar, hein, il y a 3 ans, une très grosse colonie aussi.
Ouais. Donc merci les humains finalement, parce que les ardoisières, elles sont d'origine humaine aussi. Donc ouais, très bien. Donc le grand rhinolophe, quoi d'autre comme espèce emblématique? Emblématique même inscrite, hein, je veux dire.
Bah on a les poissons migrateurs. Voilà, en particulier l'alose et le saumon, hein, qui remontent l'Aulne tous les ans pour se reproduire.
Alors l'alose, elle est moins connue. C'est quoi? Ça ressemble à une truite un peu, non?
Pas du tout. Pardon.
Ouais, j'ai vaguement en tête à quoi elle ressemble, mais alors j'en ai jamais vu en vrai, je crois.
Non,
ouais.
En fait, ça ressemble à une grosse sardine. C'est la famille des sardines. Okay. Mais bon, ça peut faire jusqu'à 70 cm, hein, donc c'est quand même une grosse, grosse sardine. Mmh. Voilà. Et ça vit en banc. En mer, en fait, il y a des fois quelques pêcheurs en attrape, mais voilà, c'est assez rare quand même à pêcher. Mais ça forme des bancs importants et ça se nourrit de petits poissons en mer.
Voilà. Et elle remonte aussi la rivière, comme le saumon.
Voilà, sauf qu'elle n'a pas un cycle exactement pareil. Elle passe plutôt 3 à 7 ans en mer. Mais ouais, elle va remonter la rivière pour se reproduire. Elle ne va pas se reproduire exactement au même endroit que le saumon. Et elle va en plus pas être capable de faire les fameux sauts du saumon. On peut voir des saumons faire des sauts de 1,50 m, 2 m. Mais la lose, elle, ne peut que nager. Donc elle va être très facilement bloquée par des barrages. Et voilà, c'est une espèce en France qui est vraiment en voie de disparition. On a perdu des millions d'individus
juste à cause de ça, quoi. À cause des barrages essentiellement, quoi.
C'est toujours avec une espèce, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est la première cause. Mais les barrages ont joué. Le réchauffement climatique, c'est une autre cause. On le sait maintenant. Et puis la pollution des eaux, des rivières généralisée aussi. Ça n'a pas aidé.
D'où l'utilité de l'EPAGA pour ses autres missions aussi. Hein. Oui, alors donc les poissons migrateurs, les rhinolophes, les grands rhinolophes et...
Et on a aussi la loutre.
Ah oui.
Voilà. Ouais, la loutre, c'est une espèce emblématique en fait, du centre-Bretagne. C'est un des rares endroits où elle n'avait pas disparu en France dans les années 60. Et grâce à l'arrêt de la chasse et du piégeage, elle a pu recoloniser un peu, à partir de ses noyaux de population, tous les cours d'eau. Et aujourd'hui, tout l'Aulne, hein, toute la vallée de l'Aulne est colonisée par la loutre.
Ah ouais, ah bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ouais. Parfois, ça fonctionne vraiment de manière spectaculaire. Et il y a peut-être aussi la mulette perlière, non?
Tout à fait, c'est là. J'aime bien.
Oh, on la connaît, celle-là, on a fait plein d'émissions.
Bah, oui, bah, c'est vrai que c'est une espèce très intéressante. On a découvert il y a 6 ans maintenant la plus grosse population de mulettes perlières.
Donc c'est des petites moules avec une perle dedans, mais en fait rarement, quoi. Il y a rarement des perles dedans.
Oui, la semaine dernière j'en ai vu d'ailleurs, il y a un agriculteur de l'Élèze, qui habite à Saint-Herbotte, qui m'a montré des perles que son père a pêchées dans la rivière il y a 50 ans. Et ouais, en effet, c'est pas très très joli. Ça fait des perles, mais bon, voilà. Mais ce qui est super intéressant avec cette espèce, c'est surtout qu'elle est, en fait, elle a besoin d'un cours d'eau parfait pour pouvoir s'y développer, et une super qualité d'eau, des fonds naturels super propres, plein d'espèces de poissons. Et donc, c'est une vraie sentinelle en fait des rivières.
Et elle aussi, elle revient, la mulette, elle se maintient en tout cas.
C'est l'espèce pour laquelle on est le plus inquiet aujourd'hui, parce que la population, en effet, elle est très importante dans la vallée de l'Élèze, mais on se rend compte qu'il y a très peu de juvéniles. Et si ça continue comme ça, en fait, les adultes vont mourir et il n'y aura pas assez de jeunes pour renouveler la population.
Mais il y a une expérimentation d'élevage de juvéniles, c'est ça, à laquelle les PAGA participent, je crois? Non, pas directement
Aussi, indirectement, on leur donne des coups de main quand on peut. Mais en fait, nous, on essaie plutôt de travailler sur le milieu, de restaurer les rivières pour qu'elles soient à nouveau accueillantes pour l'espèce. Et en travaillant sur tous les bassins versants.
Et ça avance sinon, cet élevage de juvéniles, vous ne savez pas?
Oui, ils y arrivent. Hein. C'est un des rares endroits en France où on arrive à élever des jeunes mulettes. Et c'est intéressant, mais voilà, je le redis.
C'est pas une vraie solution, quoi.
Ouais. C'est un petit pansement qu'on peut faire pour aider l'espèce pendant quelques années. Mais ce qui va vraiment permettre à l'espèce d'être sauvée, c'est qu'on préserve son habitat naturel.
Alors, quatre espèces, un peu plus. Des animaux, il y a des plantes aussi, vous occupez d'autres plantes?
Oui, il y a quelques plantes, mais c'est vrai que par rapport à la faune très rare qu'on peut avoir dans les Landes ou les tourbières des Monts d'Arrée ou du Ménésome, la vallée de l'Aulne, c'est pas un site qui a été créé pour préserver vraiment des plantes rares. Voilà, on est plutôt sur des animaux et surtout aussi sur leur habitat, en fait, qu'ils ont besoin pour vivre.
Et des animaux finalement assez gros, enfin, il n'y a pas d'insectes dans les espèces emblématiques à protéger ou de choses comme ça.
On a quelques insectes intéressants, hein, par exemple comme le lucane cerf-volant, là, ce gros scarabée. On a de l'escargot de Quimper.
Qui n'est pas un insecte, mais qui est petit.
Voilà, on a quelques espèces de papillons aussi.
Et pas d'amphibiens, enfin je sais pas.
Si, aussi, en fait. Avec ces quatre espèces, la principale, on a tout un cortège d'espèces autour qui ont besoin des mêmes habitats, des mêmes caractéristiques pour vivre. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de celles-là, c'est un peu nos espèces sentinelles. On appelle ça aussi espèces parapluies, en fait, parce qu'en les préservant, on va préserver en fait, des milliers d'autres espèces autour, quoi.
Alors vous, Sylvestre Boichard, pour les PAGA, établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne et de l'Yerres, je le redis. Donc vous êtes chargé de veiller sur cette zone vallée de l'Aulne. Vous êtes tout seul? Comment ça fonctionne? Ça paraît énorme.
Déjà, en France, on a quand même la chance d'avoir, pour chaque site Natura 2000, un animateur Natura 2000. Voilà, c'est
vous.
C'est moi, ici. Et qui est financé par des fonds de l'État et de l'Europe. Voilà, donc ça, pour tous les sites qu'on a en Bretagne, on a une soixantaine de sites Natura 2000, on a des animateurs. Donc bon, je suis tout seul ici sur la vallée de l'Aulne, mais en fait déjà je travaille avec tous les autres animateurs Natura 2000 en Bretagne, hein. On se réunit assez régulièrement, on est un vrai réseau. Hein. Donc
oui,
on peut s'entraider, se donner des méthodes de travail. Mais et puis il y a en fait les acteurs locaux n'ont pas attendu qu'il y ait Natura 2000 aussi pour commencer à préserver l'environnement ici. Il y a par exemple le groupe mammologique breton
Oui, qu'on connaît bien aussi, voilà, qui vient de temps en temps, pour les chauves-souris notamment.
Ouais. Tout à fait, c'est leur spécialité. Et travaille depuis très très longtemps sur ces espèces. Il y a leur ancien président, Xavier Grémillet, qui, dès les années 50, a commencé déjà à mettre en place des choses pour les chauves-souris, à Pont-Coblanc en particulier.
Et alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Enfin, peut-être pas au jour le jour, parce que vous faites plein de trucs, mais bon...
Oui, alors je fais beaucoup de choses. C'est très varié comme travail. Et puis en plus, là, c'est rigolo parce qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans qu'on animait le site Natura 2000. Donc on a fait plein de choses.
Voilà. Ah ouais. Et puis des résultats. Voilà,
on a commencé à avoir des résultats intéressants, en effet. Donc, un de mes rôles principaux, ça va être d'essayer d'accompagner des projets en faveur de ces espèces, pour qu'il soit mené à bien. Voilà, le projet un petit peu emblématique et vraiment qui ressort de ces dernières années, c'est l'ouverture des vannes du canal de l'Aulne canalisée pour faire remonter les poissons migrateurs.
Ouais. Notamment les saumons, mais donc voilà, les aloses aussi.
Les aloses, les lamproies, plein d'espèces. Ouais.
Donc ça, c'est la saison en plus, là, non?
C'est à la mi-mai qu'on fait ça. On le fait deux fois par an, une fois au printemps et une fois à l'automne. Donc là, ça va recommencer à la mi-mai. Voilà, avec des ouvertures à Châteaulin.
Donc vous ouvrez les pertuis, comme on dit. Ouais. Combien de temps? Enfin, comment ça se passe? C'est un l'un après l'autre? Enfin.
Oui, bah il y a après. Alors en fait, ça a été toute une recherche. C'est là où en fait les pagas est intervenu. C'est parce que il y avait des pêcheurs qui voulaient qu'on ouvre longtemps les vannes, d'autres les loueurs de bateaux qui voulaient qu'on les ouvre pas du tout.
Ça avait baissé le niveau pour la navigation, quoi.
Voilà. Ouais. Donc il y avait beaucoup d'opposition. En fait, quand est arrivé, et ce projet-là était dans les cartons depuis longtemps, mais ça n'avançait plus. Et on a organisé plein de réunions, en fait, en recomptant, c'est des dizaines de réunions pour que les gens se parlent. On a fait venir des scientifiques aussi, experts des poissons migrateurs, pour être sûr d'avoir une opération efficace. Et en fait, on a fait parler tous ces gens-là pendant un peu plus d'un an et demi, ce qui a permis, à partir de 2014, de commencer à ouvrir les vannes. Donc, on a testé plusieurs méthodes, et puis là, depuis 2020, en fait, on a acté avec les services de la région qui gèrent le canal, là, une façon de travailler, là, qui est dans la routine maintenant.
Ouais. D'accord, donc ça se passe bien. Et vous avez observé des résultats vraiment sur le nombre de saumons, d'aloses et tout ça?
Là, c'est intéressant parce qu'on commence, souvent avec la nature, il faut être patient, parce que les résultats n'arrivent pas d'un coup. Mais là, on commence à avoir des choses intéressantes sur le saumon en particulier. Voilà, en 2022, on a eu les. En 2021, on a eu le plus grand nombre de jeunes saumons jamais comptabilisés sur les zones de reproduction de l'Aulne, depuis 1997. Donc c'était super enthousiasmant.
Très incroyable,
Et l'année dernière, en 2022, on est resté aussi avec un très bon niveau.
Ouais, c'était pas juste saisonnier, quoi.
Voilà. Et en fait, là, l'Aulne, c'est une des rares rivières bretonnes où la population de saumons augmente ces dernières années. Voilà.
Donc ça fonctionne.
On a l'impression, ouais.
Et d'autres opérations comme ça que vous menez depuis longtemps et donc vous pouvez mesurer les résultats
Les autres chiffres intéressants qu'on a, c'est sur les chauves-souris, parce que, comme je le disais, le groupe mammalogique breton travaille depuis longtemps sur les chauves-souris. On suit des colonies, en fait, grâce à eux, depuis les années 90. On va compter le nombre d'adultes qui y vivent dans la colonie en été, par exemple. Et ça nous permet de voir si ce qu'on mène est efficace. Et on voit une augmentation, en fait, régulière des populations de chauves-souris sur la vallée de l'Aulne.
Grand Rhinolophe et autres, je suppose.
Oui, tout à fait. Par exemple, cette année, on a un petit nouveau, là, le Grand Murin, qui est plutôt dans le Morbihan et qui avait disparu, en fait, depuis presque 20 ans de la vallée de l'Aulne et qu'on a revu cet hiver, là, pas mal.
Et là, votre travail consiste, le travail de l'EPAGA ou du groupe mammalogique, ça consiste à quoi? Protéger des ardoisières, mettre des grillages?
Voilà, tout à fait. Ça, c'est la base, en fait, pour que les chauves-souris soient bien. Il faut déjà qu'elles aient un gîte sécurisé.
Donc ça empêche les humains de rentrer, en gros.
Tout à fait, ouais. Ça les protège aussi, les humains, parce que souvent c'est dangereux d'aller dans ces ardoisières. Donc, ça n'a pas été fait que pour les chauves-souris. Mais donc ça, c'est une première chose, protéger les gîtes. Ça peut être aussi, quand on trouve une nouvelle colonie, comme on a trouvé à Châteaulin il n'y a pas longtemps, c'est discuter avec le propriétaire pour que ça, la présence des chauves-souris ne le gêne pas trop et que ça soit pérenne, en fait, que la colonie puisse perdurer sans gêner trop le propriétaire. Voilà.
D'accord. Et donc, ça fonctionne aussi. Et sur les mulettes, on en a déjà parlé.
Sur les chauves-souris, ouais. On travaille aussi beaucoup sur leur zone de chasse.
Ah oui,
ouais, parce que, en fait, elles chassent autour de leur colonie de reproduction. En fait, les femelles en particulier, comme elles ont besoin de revenir souvent allaiter leurs petits, eh ben, il faut qu'elles trouvent beaucoup de nourriture, beaucoup d'insectes autour de la colonie. Et donc ça, on essaye de travailler avec les forestiers et les agriculteurs autour des colonies pour avoir des forêts gérées en faveur de la biodiversité, avoir plus d'insectes, avoir un maximum de prairies permanentes avec des animaux qui pâturent pour là aussi avoir plus d'insectes.
Ouais.
Et ça aussi, on a réussi, je calculais ça là, on a à peu près 60 hectares aujourd'hui de prairies naturelles qui sont gérées par des agriculteurs volontaires pour...
favoriser les insectes.
Ouais, pour favoriser les insectes, en fait, en mettant en fauchant pas trop tôt dans la saison pour pas tuer les fleurs qui permettent aux insectes de venir se nourrir, en mettant pas trop de bovins qui vont piétiner le sol et détruire la faune d'insectes. Voilà, c'est des exemples comme ça.
Avec du bocage aussi, ça peut aider.
Oui, tout à fait. Le bocage est très important aussi pour les chauves-souris.
Ouais, c'est là que vous travaillez avec vos collègues, en fait.
Oui.
Forcément, dans les pagaies, vous n'êtes pas tout seul quand même.
Tout à fait. Bah oui.
Bah oui, non, mais c'est ça. C'est des actions concertées, en fait, tout ça, ouais. Bien sûr. Et alors, les chauves-souris. Et donc, sur les mulettes, on en a déjà pas mal parlé, donc on ne va peut-être pas s'attarder, mais vous menez aussi des actions, surtout de vérification de la qualité de l'eau, en fait, c'est ça.
Hein. Oui, même d'amélioration. Hein, là, ça fait 2 ans que ça y est, on est rentré un peu dans le dur. On fait des travaux vraiment de restauration du milieu. Donc, on a commencé par travailler avec des éleveurs qui avaient des bovins qui descendaient dans les cours d'eau. Et bien, forcément, on comprend que les mulettes, ça peut ne pas leur plaire. Donc là, on a installé des abreuvoirs, des clôtures, des passerelles pour que les bovins puissent continuer à entretenir les parcelles. Parce qu'il y a aussi des chauves-souris dans ce secteur-là. Donc...
Il ne faut pas que les bouses de vaches aillent dans la rivière. C'est ça, en fait, le principe, notamment. Quoi.
Bah, là, pour la mulette, en fait, les bouses de vaches, ce n'est pas très grave. Ouais. C'est plutôt le fait qu'elles vont amener beaucoup de terre dans le cours d'eau. Et que ça va étouffer les...
Ça envase, quoi.
Ouais, que ça va étouffer les mulettes qui sont dans le fond. Ouais.
D'accord. Et alors, les loutres, qu'est-ce que vous faites pour les loutres? Parce qu'elles sont quand même très populaires, donc il faut en dire un mot.
Oui, les loutres, pour l'instant, elles se sont beaucoup débrouillées toutes seules, parce que c'est une population qui a réussi à recoloniser les milieux. Mais la loutre, elle, sa caractéristique, c'est qu'elle a besoin de beaucoup se déplacer. En fait, comme elle vit dans un milieu quand même un peu hostile, hein, être dans l'eau froide à longueur de journée, ça, voilà, on comprend qu'elle a besoin de beaucoup se nourrir, en fait, hein, de beaucoup d'apports énergétiques. Pour survivre. Et pour y arriver, elle se déplace constamment le long des rivières. Et ça, ça peut être un problème, parce que si elle croise une route avec beaucoup de trafic dessus, il peut y avoir des collisions. Et comme elle se reproduit très lentement, chaque individu qui va mourir, ça va impacter en fait la population.
Quoi. Elle ne fait pas un petit parent, non? Enfin si,
si ouais,
maximum
fait,
quoi.
Ouais. En fait, et puis elle se reproduit que 2 à 3 ans.
Ah oui.
Ouais.
Oui.
Donc en fait, voilà.
Elle n'est pas fertile longtemps quoi.
Mmh. Ouais. La mortalité est très rapide parce que elle a besoin d'être toujours très active. Dès la moindre maladie, la moindre blessure, elle va mourir en fait de faim quoi.
D'accord.
Voilà. Mais bon, pour revenir à ces déplacements-là, c'est surtout là-dessus qu'on travaille. Essayer d'aménager les passages routiers pour éviter les collisions, mais aussi réfléchir à tout ce qu'on appelle la trame verte.
Eh oui.
Voilà. En fait, une loutre, s'il n'y a plus de ripisylve le long d'un...
Ripisylve, c'est toute la végétation de bord de rivière.
La forêt de bord de rivière. Ouais. Voilà. Si on arrive dans une rivière qui a été, par exemple, busée ou un lotissement, sous une parcelle
agricole. Une buse, un gros tuyau.
Voilà, c'est ça. Et la loutre, elle ne va pas pouvoir avancer. Quoi. Et là, en fait, on va essayer de lui recréer un chemin avec de la végétation pour qu'elle puisse atteindre les zones de source ou le ruisseau qui est en amont. Quoi.
Mmh. Pourquoi est-ce que c'est important de préserver toute cette biodiversité dans les zones Natura 2000, Sylvestre?
Ah bah, très bonne question. Voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que rien que le fait de voir une nature et des rivières pleines de vie, ça me suffit. Mais bon, je travaille aussi pour une collectivité et il faut penser à l'intérêt général, en fait. Et préserver la biodiversité, en fait, c'est préserver aussi une nature qui nous rend service sans qu'on ait beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts à faire. Et ça, c'est hyper important parce que, par exemple, si on regarde la sécheresse qu'on a vécue l'année dernière, on se rend bien compte, en fait, que si on répare pas les cours d'eau qui ont été passés à la pelleteuse depuis 50 ans ou toutes les zones humides qui ont été drainées, avec le dérèglement climatique, on risque de se retrouver assez vite sans eau de bonne qualité et en bonne quantité, quoi. Mm-hmm.
Juste pour boire, par exemple.
Pour boire ou pour aussi faire tourner des entreprises, hein, parce qu'il y a ça aussi derrière l'eau, hein, y a plein d'entreprises. Et l'aulne, on le sait, hein, c'est une ressource qui alimente des centaines de milliers de Finistériens et des centaines d'entreprises. Donc, en aidant les loutres et les mulettes, en fait, on aide aussi tous ces Finistériens et ces Finistériennes à avoir un travail et à avoir de l'eau au robinet, quoi.
Et il est bon de le rappeler. Merci beaucoup, Sylvestre. On retrouvera les Pagas prochainement sur l'antenne de Radio Évasion. Et puis, en attendant, on pourra retrouver cette émission sur le site internet. À bientôt.
Au revoir.